Merci de m'avoir invité. Je veux vous parler de la morale universelle. On connaît la place que Hetzel accordait à l'éthique. Comme le signale Parménie et Bonnier de la Chapelle, ce formidable homme de lettres se montra toujours soucieux de participer à la vie spirituelle de son époque, unissant à la passion du beau et du neuf, celle du bien. Ce n'est pas par hasard que son vrai début dans l'édition suffit avec la publication d'un ouvrage collectif ayant comme sous-titre la formule « Études de mœurs contemporaines, le sein de la vie publique et privée des animaux ». Si la veine satirique est bien perceptible dans ce petit tableau de la société des années 1840, le souci pour la morale inspirera un projet tout à fait différent, qui se traduira en une collection de 8 volumes, publiée peu avant l'invention de la Bibliothèque illustrée des familles. Il est intéressant d'analyser de plus près ce travail, d'autant plus que Hetzel lui-même figure parmi ses auteurs, comme le signale Kérard. Dans la présente communication, nous fournirons avant tout quelques indications de type biobibliographique. Ensuite, nous nous interrogerons sur les mots-clés de la collection, à savoir morale universelle et esprit, ainsi que sur les enjeux contenus dans celle-ci. Quelques questions surgissent. Est-ce que les rédacteurs obéissent à un esprit de système? Et encore, quelle fut la contribution des volumes signés par Hetzel? Originellement publié au format In12, la morale universelle paraît dans la série In18 de la collection Hetzel, qui, comme l'indique Nicolas Petit, vint peu à peu remplacer la collection In32, dite Diamant. Les tomes sont tous accompagnés d'un avant-propos. Des notices biographiques sont annexées aux moralistes orientaux et aux moralistes espagnols. Si Vicaire ne fait pas mention de la collection, la bibliographie de la Belgique de Mucard nous informe que celle-ci débuta en 1859 par les moralistes anglais et par les moralistes espagnols. Les volumes furent composés respectivement par Alphonse Esquiros et par P.J. Martin, nom de plume sous lequel se cachait notre éditeur. De cette année-là date aussi le second ouvrage, attribué à cet auteur pseudonyme, Les Moralistes Italiens, et deux tomes rédigés par Auguste Morel, Les Moralistes Orientaux et Les Moralistes Latins. Ami intime d'Hetzel, Morel composa également les dernières œuvres de la série. Paru en 1861, celle-ci atteste un changement remarquable puisqu'il s'intitule « L'esprit des Grecs et l'esprit des Allemands », ce dernier en collaboration avec Gérimont. La substitution s'imposa au fur et à mesure que les ouvrages furent réimprimés, comme l'atteste la notice présentant la série, laquelle rapporte le terme « moraliste » au lieu d'esprit. Il est curieux de remarquer que la dite notice fait mention d'un tome sous presse dont nous n'avons trouvé aucune trace, l'esprit des Français modernes. Comme nous l'observions, un projet pareil ne surprend pas les lecteurs de Stahl, surtout si l'on songe à l'époque où la collection vit le jour. Protagoniste des journées de 1848 et victime de l'avènement de Louis Bonaparte, Hetzel était sur le point de quitter Bruxelles pour retourner dans son pays, qui regagna en 1859. Là, il devait relancer une activité éditoriale qui ne s'était jamais interrompu. Car, comme on le sait, l'exil de ce fervent républicain fut marqué par des relations intenses avec des compatriotes tels que Victor Hugo, ainsi que par de nombreuses publications, y compris celles de quelques ouvrages suspects, comme un recueil d'écrits de Chamfort. Conformément aux proclamations lancées dans ce volume, vers la fin des années 1850, Hetzel réfléchissait de plus en plus sur le devoir qui s'impose à l'homme de lettres pendant le temps de révolution. Si bien que sa plume s'était mise pour de bon au service de la moralité publique, comme on lit dans la préface de La Vie à Paris. Or, notre collection relève justement de cette atmosphère, comme nous allons le vérifier. Nous ne pouvons pas retracer l'histoire de l'idée des morales universelles, puisqu'il faudrait remonter à une multitude de penseurs, tels que Kant ou Tacite. Toutefois, nous signalerons que ce titre est redevable de plusieurs ouvrages. on peut songer au traité du baron d'Ulbach, ou bien à un ensemble de volumes d'empreintes religieuses comprenant, entre autres, un dictionnaire moral où l'on s'est proposé de regrouper, je cite, par ordre alphabétique, ce que les pères grecs et latins, les interprètes de l'écriture sainte et les théologiens, les prédicateurs français, italiens, allemands, ont dit de plus curieux et de plus solide sur différents sujets de morale. On rappellera en outre qu'une société de morale universelle s'était constituée à l'Élysée dans les années 1830. Toutefois, il nous paraît plus important de souligner que Hetzel avait lui-même eu recours à l'appellation « morale universelle » dans l'esprit de Voltaire. L'expression figurait en guise d'introduction à une série de citations destinées à illustrer l'éthique du philosophe. Quiconque a écrit sur nos devoirs a bien écrit dans tous les pays du monde, parce qu'il n'a écrit qu'avec sa raison. Ils ont tous dit la même chose, Socrate et Épicure, Confucius et Cicéron, Marc Antonin et Amouradeux. La morale est une, affirmait Voltaire, après avoir évoqué Zoroastre et Lord Shaftesbury. On est frappé de retrouver une formulation bien connue des lecteurs du magazine d'éducation et de récréation. Mais surtout, ces suggestions résonnent dans les pages présentant notre série. En témoignent les références à Confucius et à Cicéron qui colorent l'avant-propos des moralistes orientaux. Là où l'on fait appel à une grande loi morale universelle qui s'accompagnerait de la loi de la grande fraternité et de la solidarité humaine. Qui plus est, ce recueil est comparé à une sorte d'encyclopédie que le temps améliorera et que d'autres referont. Certes, d'innombrables influences se sont mélangées dans ces préfaces, comme nous le constaterons. Toutefois, le chef de file de Lumière nous offre quelques indices précieux pour éclairer la signification du 12e mot clé de notre collection, « esprit ». Sans prétendre épuiser une notion bien complexe, on se souviendra que, dans l'article homonyme de l'encyclopédie, Voltaire, en reprenant une discussion entamée par le père Bourg, suggérait de lire le petit nombre de bons ouvrages de génie qu'on a dans les langues savantes et dans la nôtre. De fait, l'auteur de Candide prenait l'ouverture vers les œuvres non françaises que nous retrouverons au cœur du projet de la morale universelle. Car l'esprit, cette flamme légère, comme le dit Morel, est ici non seulement évoqué en opposition à la bêtise, ou valorisé en tant que propriété qui appartient à la patrie et qui doit sans cesse être en action pour elle. Fin de citation. Mais surtout, ce concept est associé à l'idée de la littérature d'une nation, le but avoué de la série étant de donner un aperçu de ce que les écrivains étrangers ont pensé sur les différentes branches de la morale. Ces observations s'avèrent d'autant plus cohérentes lorsque nous vérifions que Hetzel et ses collaborateurs renouent avec la caractérologie des nations, tradition qui entretient une relation patente avec la littérature, comme le remarque Louis van Delft. Le mot revient constamment dans les préfaces, où il est question des analogies de caractère entre les Espagnols et les Orientaux, de l'excellent caractère grec, sérieux et plaisant à la fois, et ainsi de suite. De même, nos compilateurs aspirent à faire ressortir la couleur et les formes locales dont une pensée originaire peut se revêtir, des formes qui, comme le précise Morel, ne sont pas sous tous les climats entièrement le même. C'est justement P.J. Martin qui représente le mieux cette tendance. Dans son avant-propos aux moralistes italiens, l'éditeur justifie les habitudes de dissimulation propres à ce peuple par une altération du caractère national qui se serait corrompu suite à des circonstances historiques particulièrement défavorables. Même les rubriques se font porteuses de ces clichés. En témoigne une curieuse caractérologie régionale de la farine, ainsi que de nombreuses observations sur les qualités et sur les vices des populations, qui deviennent volontiers les prétextes pour ranger sur les différences entre les étrangers et les Français, autant qu'ailleurs. Par exemple, alors qu'on apprécie la bonhomie des Anglais, on se moque de la cuisserie propre à ses maîtres d'école, comme le dit Gallenga. En français, peut vous laisser 5 minutes la parole, Mais n'allez pas vous flatter pour cela et croire qu'il vous écoute. Il pense seulement à ce qu'il dira quand vous aurez fini. Bref, même si l'on insiste sur la présence d'un fond commun, d'où jaillissent les idées morales, c'est tout un débat renouvelé par Madame de Staël qui revit par notre série. Ce n'est pas par hasard que les invitations à lire davantage les écrits d'où les rédacteurs ont tiré leurs citations fleurissent en même temps que les allusions au comparatisme ou au génie des nations. Quelques éclaircissements nous permettront de vérifier cette affirmation. Pour commencer, nous avons déjà compris que, tout en se réclamant de s'occuper des moralistes, Hetzel et son équipe emploient le mot avec une désinvolture extrême. Si bien que les citations convoquées à animer la série ne coïncident qu'accidentellement avec les formes d'élection du genre, c'est-à-dire les formes brèves, savantes. Même la définition de « peintre de mœurs » contenue dans l'avant-propos aux moralistes italiens ne nous satisfait pas. Cette catégorie au contour vague ne pourrait abréger un personnage tel que Manzoni ou Stern, à moins de vouloir lui accorder une signification très ample, voire démesurée, comme l'avait fait Prévost Paradol. En effet, nos compilateurs n'hésitent pas à recopier des passages entiers, tirés des meilleurs moralistes d'occasion, pour reprendre encore une fois les mots de Martin. Les monologues de Shakespeare, les raisonnements de Don Quichotte, les considérations de Goethe et d'une foule de romanciers et de poètes enrichissent la morale universelle, l'assimilant à une anthologie littéraire. Encore, faut-il saisir le concept de littérature dans son sens le plus vaste, car les animateurs de la série puisent à pleine main dans des typologies de sources, comme les journaux ou l'immense réservoir de proverbes et des dictons populaires, qui, comme le met en évidence Morel, nous font connaître une nation tout entière. Mais surtout, ils se nourrissent d'une classe d'écrivains que Benedetta Papasoli définit comme les voisins des moralistes et qui inclut les auteurs des essais de philosophie politique, les historiographes, les médecins et les savants, pour ne citer que quelques exemples. Or, ce phénomène s'explique par le fait que nos auteurs véhiculent un message idéologique préalablement établi, comme le démontre une analyse des rubriques rassemblées dans ces recueils d'ouvrages d'esprit. Avant tout, pour ce qui est de la matière du moraliste au sens plus strict du terme, nous observerons que la morale universelle s'aligne sur des positions traditionnelles. En accord avec la leçon de la Bruyère et de la Rochefoucauld, l'on fustige les vices capitaux en condamnant notamment le sot orgueil, fléau comparé à un mendiant qui crie aussi haut que le besoin et qui est bien plus insatiable. La convoitise et l'hypocrisie, cet édifice élevé dans l'air, comme le dit Feijot, sont également blâmés d'une manière sévère, alors que, dans d'autres cas, le registre tragique alterne avec l'humorisme. Ainsi, Mr. Punch, un journaliste fictif issu de Pulcinella, assure-t-il à la rubrique « Vanitas Vanitatum » Si un homme a une grande idée de lui, vous pouvez être à peu près sûr que c'est la seule grande idée qu'il ait jamais eue dans sa vie. Si ces observations n'apportent aucune nouveauté fondamentale, il est intéressant de découvrir que nos compilateurs procèdent à un élargissement de leur champ d'action. La critique des défauts caractériels se double alors de quelques remarques sur les mauvaises habitudes alimentaires, telles que l'ivrognerie ou la voracité, de même que sur l'hygiène du corps. En réalité, l'apparition de ces rubriques, qui sont assez prosaïques, n'est pas sans cause. Car les auteurs ne se limitent pas à exalter un idéal tel que la vérité ou à indiquer un code comportemental réglé par des devises comme « connais-toi toi-même » et rien de trop. Loin de là, ils prônent une morale laquelle se définit comme la science qui enseigne à conduire sa vie, ses actions, c'est-à-dire, pour suivre encore une fois les indications d'Esquiros, la morale pratique, des bonnes et petites choses, qui ne dédaigne pas de descendre aux petits devoirs de la vie et qui est accessible à tous. Il en découle une attention particulière pour des sujets ou bien pour des lieux qui nous ramènent aux aspects quotidiens de l'existence, ainsi qu'à ses petites tribulations. Le sommeil, le café, les vêtements et encore la santé. Des rubriques telles que lessive et médecin peuvent être repérées dans les moralistes anglais et dans les ouvrages de Martin. Nous rappellerons en outre que la nature acquiert un rôle de premier plan et parce que c'est à cette entité que notre morale se veut conforme et parce que sa centralité autorise la présence d'un groupe de des rubriques satellites inusitées où l'on chante le spectacle du monde, le ciel, le soleil, etc. Mais surtout, il s'ensuit la valorisation de la famille, institution à laquelle Hetzel conférait une importance absolue, comme on le sait. Certes, les badinages sur l'amour et sur les relations conjugales ou même extra-conjugales abondent. Il suffit de lire le journal d'un mari, d'un anonyme anglais, ou les reproches que l'italienne Sarah adresse aux hommes, pour ne pas parler des perles que Stahl collectionne dans les moralistes espagnols. Cependant, aucun tome de la morale universelle ne néglige de célébrer la poésie des vertus domestiques, ni de bénir le foyer et son gardien, la femme. Si les moralistes latins illustrent les fondements juridiques du mariage et du divorce, les dynamiques émotives qui s'instaurent à l'intérieur du noyau familial sont explorées dans chacun de nos ouvrages. Une constellation de citations peignent les petites scènes du drame domestique, établissent le devoir que chaque membre doit remplir, et qui plus est, glorifie la figure de la mère, tout en investissant la paternité d'une influence inédite. Ce n'est pas par hasard que Hetzel, qui avait perdu sa fille en 1853, s'arrête sur les sentiments que les parents nourrissent pour leurs enfants. Ces derniers sont à la fois la source la plus abondante d'émotions et l'instrument de torture le plus cruel lorsque leur mort frappe la famille, comme le déclarent les moralistes italiens. Il nous resterait à parler d'une vaste quantité de thématiques qui, dans bien des cas, n'ont été que partiellement abordées par les véritables moralistes, mais qui, en revanche, peuplaient les pages de l'encyclopédie. Nous mentionnerons en passant les notes sur la finance et sur l'économie, où la dénonciation de la toute-puissance de l'argent côtoie la réflexion sur le commerce et sur le libre-échange livré par Franklin et par d'autres penseurs. Encore faudrait-il rappeler le poids que l'on confère à l'histoire, dont on rappelle la moralité et dont on chante l'irrésistible marche vers le progrès. Par contre, une autre classe de citations entraîne des oppositions. Tout en célébrant les découvertes marquantes de la modernité, comme les ballons ou l'électricité, les rédacteurs de la morale universelle n'omettent pas de rapporter les doutes concernant la science ou bien les innovations qu'un moraliste oriental qualifie de choses exécrables. Ni Hetzel n'hésite à remettre en discussion un autre concept clé de notre collection, le positivisme, dont Tomaseo signale les limites. En dépit de cela, l'esprit des Lumières continue de souffler dans la morale universelle, comme le démontrent sur une échelle bien plus vaste les rubriques à caractère sociopolitique. Là, l'appel à la raison, cette arme qui protège l'homme, s'accompagne de l'exaltation de la triade liberté, égalité, fraternité, laquelle traverse comme un fil rouge les 7 tomes de la collection. Parallèlement, l'idéal de la justice souveraine, topos auquel renvoie la seule occurrence de la rubrique morale universelle, ces faits et la pierre de touche de tout système de gouvernement et les principes sur lesquels repose la grande loi de l'ordre moral de la nature, à savoir la liberté civile. Ce sont notamment ces postulats qui expliquent la diffusion d'extraits où l'on défend le droit de l'homme, y compris les réquisitoires contre l'esclavage ou le débat sur les prisons et sur les peines. Thème de grande actualité au XIXe siècle, ces sujets avaient été abordés par des auteurs largement cités dans les moralistes italiens, Cesare Beccaria et Silvio Pellico. Bien que notre compte rendu soit loin d'être exhaustif, une première conclusion s'impose. S'adonnant à une pratique de découpage-coulage tout à fait désinvolte, les rédacteurs de la morale universelle façonnent un ouvrage où des idéologies différentes se mêlent et coexistent. Certes, il faudrait préciser que nos écrivains rapportent ça et là des pensées qu'ils ne partagent pas, comme les souligne Morel. Pareillement, ils regroupent sous une même rubrique des textes qui sont très éloignés l'un de l'autre, d'un point de vue stylistique, ainsi que sémantique, mettant pour ainsi dire en évidence les deux faces d'une médaille. C'est pourquoi, plutôt que de parler d'un système, il conviendrait d'affirmer avec Esquiros que les écrivains de la morale universelle suivent un plan qui leur permet d'emprunter à des écrivains de toute classe, dans chaque littérature, les pensées remarquables. Pourtant, c'est justement ces procédés qui les autorisent à rassembler, comme dans un creuset, des instances variées, mais qui s'harmonisent au nom de quelques idéaux fondamentaux. Ces compilateurs fouillent dans les traités de Franklin pour promouvoir la démocratie et le libéralisme. Cite Sénèque et Témistius pour prêcher la tolérance et le respect de tous les hommes, sans tenir compte de leur religion ou de leurs conditions. Ou encore, font appel à Dazzel pour déterminer les bases de la civilisation. En phase avec leur temps, ils convoquent les sages de l'Orient pour avancer quelques revendications chères à l'humanitarisme, mouvement qui invente la question sociale. Car dans notre série, la dénonciation du décalage entre le riche et le pauvre rejoint la défense non seulement des opprimés, le condamné, la femme, le misérable, voire les animaux, mais aussi du peuple, cette entité collective qui poursuit sa marche comme un ouvrier honnête, comme l'écrit Grossi. On peut également affirmer que les positions exprimées dans la morale universelle, d'où par ailleurs transparaît une adhésion générale au régime républicain, sont très proches du credo de la morale laïque, courant au sein duquel s'inscrit la pensée de notre éditeur, comme l'a signalé Guy Gauthier. Cette hypothèse est renforcée avant tout par l'insistance sur l'idée de patrie, concept capital pour des personnages qui, comme Hetzel et Esquiros, étaient engagés d'un point de vue politique et avaient connu l'amertume de l'exil. Ce n'est pas par hasard que la quasi-totalité des moralistes italiens sont des héros du Risorgimento, des patriotes auxquels l'amour pour sa nation inspirera quelques réflexions touchantes et particulièrement significatives. Qui plus est, ce motif se fonde avec un autre pivot de la doctrine embrassée par Stahl, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, qui est réaffirmée tout au long de la collection. Tout de même, ce sont les déclarations en faveur de l'instruction publique qui constituent le véritable point de jonction avec la pensée du futur inventeur du magasin d'éducation et de récréation. Ce souci va effectivement de pair et avec les sollicitations pour la scolarisation des jeunes filles et avec le dessin principal du périodique lancé en 1864. La rédaction d'un code pour l'éducation et pour la sauvegarde de l'enfant. En témoigne une série de citations que nous résumerons par une pensée chinoise délicate et pénétrante. Instruisez l'enfance dès que son esprit devient capable d'instruction, mais ménagez sa faiblesse et sachez vous accommoder à sa raison naissante. Laissez à cette jeune fleur le temps de s'épanouir et ne la flétrissez pas pour toujours en les chauffant imprudemment. D'autre côté, il ne faut pas sous-estimer d'autres aspects ressortant de la lecture des deux travaux signés par Martin, des traits qui nous relient plus directement à la première phase de l'aventure artistique de Stahl. Par exemple, un thème que l'écrivain avait esquissé dans l'esprit des femmes, la peinture de l'amour et de l'univers féminin, s'unit dans les moralistes espagnols à un goût pour l'humour qui débouche sur un anticléralisme parfois féroce, comme l'atteste une foule de proverbes, tels que « moi qui demande pour Dieu, demande pour deux ». En outre, si l'auteur s'en prend à la morale des familles espagnoles, ses critiques ne frappent pas exclusivement le mariage combiné ou la facilité des femmes. Au contraire, le mœur corrompu proviendrait d'un sentiment romanesque qu'avaient alimenté les livres de chevalerie, plein de mensonges et de vanités. Au siècle de Madame Bovary, Hetzel entente donc, lui aussi, son procès aux lectures dangereuses. Ces derniers, par ailleurs, s'est fait l'occasion pour livrer quelques principes de poétique. La tâche est confiée à Cervantes ou encore à l'italien Coppino, selon lequel le romancier doit émouvoir et instruire en nous présentant le spectacle de la vie contemporaine. Ce sont là des axiomes que Stahl suivait diligemment dès ses débuts littéraires. Toutefois, les moralistes italiens semblent évoluer vers un objectif nouvel. En présentant au public des écrits contemporains qui n'avaient jamais été publiés en français, l'éditeur se révèle en effet un dénicheur de nouveaux talents très fins. L'éducateur Cereseto, le journaliste Bersezio, l'observatrice Sarah, le poète dialectal Raiberti, voire la statue parlante Pasquino, pour ne faire que quelques noms, sont autant de mineurs que les spécialistes sont en train de redécouvrir et dont Hetzel rapporte des passages pleins de verve et d'intelligence. Entreprise qui souhaite réaffirmer les fondements d'une éthique commune aux populations les plus différentes, tout en peignant l'esprit propre à celle-ci, la morale universelle sert donc de charnière entre les deux périodes de la carrière d'Hetzel. En effet, après son rapatriement, l'éditeur se détourna de la vie politique pour se consacrer à l'élaboration de sa morale familière et à l'entreprise du magasin et de la bibliothèque d'éducation et de récréation. Notre collection anticipe quelques motifs clés de ce grand projet. En même temps, le tome de Martin trace une ligne de continuité et avec la production du Stahl de la première manière, et avec quelques livres qui précèdent le tournant de 1864, comme l'esprit de tout le monde. On peut aussi rappeler qu'Hetzel, au début des années 1850, avait envisagé la création d'une librairie internationale, en prospectant en particulier le marché des traductions, comme le signale M. Gourevitch. Le projet échoua, mais il nous reste quand même un avant-goût de son flair pour les ouvrages peu connus, comme nous l'avons constaté. Il serait peut-être fructueux de creuser ces questions et de redécouvrir une série qui, comme nous espérons l'avoir démontré, recèle quelques éléments intéressants pour les spécialistes. Merci.